إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous commençons cette série de cours en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de se réunir encore dans ces assises de sciences qui sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, dans la présentation du livre que nous allons étudier ensemble, de l'ouvrage que nous allons étudier ensemble dans cette série, Inch'Allah, nous allons faire une petite introduction qui est nécessaire à ce cours. Premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'être humain pour un objectif précis. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils me vouent un culte exclusif. Et dans sourate Al-Mulk, Allah tabaraka wa ta'ala dit هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et tester lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Et il a dit subhanahu wa ta'ala الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah, qui a créé les sept cieux et autant de terres, entre eux son commandement descend afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah a englobé toutes choses de son savoir. Donc dans ces trois versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous résume l'objectif de la création. Premièrement, lui vouer un culte exclusif. Deuxièmement, pour nous tester, nous éprouver lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Ahsanu amala. Il n'a pas dit aktharu amala, le plus d'œuvre. Ahsanu amala. Et ahsanu amala, comme on dit les savants du tafsir, et Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, c'est aswabuhu wa akhlasuhu, celui qui est le plus juste et le plus sincère, c'est-à-dire qui réunit deux conditions, la sincérité pour Allah et le fait d'être sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis dans le troisième verset que nous avons récité de sourate Al-Talaq, Allah Ta'ala nous explique qu'il a créé les sept cieux et les sept terres. Pourquoi ? Pour qu'on connaisse les noms et les attributs d'Allah. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Donc, qu'on apprenne à connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Voilà pourquoi Allah Ta'ala a créé l'être humain. Pour que l'être humain apprenne à connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Pour que l'être humain soit éprouvé et qu'il essaye de faire les meilleures des œuvres, les plus sincères, les plus justes. Et pour que l'être humain voue un culte exclusif à son Seigneur subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Car ce monde n'est qu'un passage d'épreuve, comme il est dit dans Surat al-Mulk, qui nous a créé pour nous éprouver. Et c'est la base sur laquelle se repose notre religion. L'objectif de la création, qui est le tawhid. Tout ça peut être réuni en une phrase, le tawhid. Car dans le tawhid, il y a le fait de vouer un culte exclusif à Allah. Dans le tawhid, il y a le fait de lui vouer les actes exclusifs et de suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de l'adorer. Et dans le tawhid, il y a le fait de connaître le nom et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif de la création des cieux, de la terre, des hommes, des djinns, est le tawhid. Et la connaissance d'Allah et son adoration exclusive et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Être des serviteurs à Allah. Concrétiser la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne peut se concrétiser sans connaissance. La connaissance d'Allah. La connaissance de ses noms et ses attributs. La connaissance de ses règles et lois. Pour pouvoir justement adorer Allah sincèrement et correctement. Correctement de la manière qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. De la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et ceci est l'objectif de l'apprentissage de la science religieuse. L'objectif de l'apprentissage de la science religieuse, ce n'est pas d'avoir des arguments dans nos discussions de quartier pour pouvoir polémiquer avec nos amis ou montrer celui qui en connaît le plus. L'objectif de la science religieuse, c'est de concrétiser le tawhid à travers l'apprentissage de cette science et sa mise en pratique. Le musulman ne doit jamais perdre cet objectif devant lui. Il doit constamment avoir cet objectif devant lui. Car c'est ce pourquoi Allah l'a créé, c'est ce pourquoi il respire, c'est ce pourquoi il mange, il dort, c'est ce pourquoi il fait chaque chose dans sa vie. Dès qu'il perd de vue cet objectif, il s'égare. Il s'égare partiellement, ou il s'égare totalement, selon le degré d'égarement. Dès qu'il perd de vue cet objectif à un moment, qu'est-ce qui vient à la place? L'insouciance, la rafla. L'insouciance qui le pousse vers la désobéissance, qui le pousse vers le délaissement des ordres et des interdits. Délaissement des ordres, le fait qu'il ne s'éloigne pas des interdits. Qui le pousse loin de l'évocation d'Allah et de son adoration. Loin du fait de concrétiser l'uboudiyya, la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre seul objectif sur cette terre, mes frères, qu'il ne faut pas oublier. Et cette science religieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée, il a honoré les détenteurs de cette science, il en a fait les héritiers des prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes les prophètes n'ont pas laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science religieuse. Celui qui en a eu grâce, à qui Allah en a fait don, il a pris la plus grande part en islam. Il a pris la plus grande part en islam. Cette science religieuse, ce n'est pas une accumulation d'informations. C'est pas ça la science. La science, ce n'est pas une accumulation d'informations. La science est une lumière, la lumière de la révélation qui vient s'ancrer dans les poitrines. La lumière du Coran, la lumière de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur compréhension, leur amour, l'attachement à ces textes, la mise en pratique qui vient s'ancrer dans les poitrines. Et la science religieuse est un devoir et une obligation pour chaque musulman et musulmane, peu importe son niveau, peu importe son âge, peu importe son niveau d'études, peu importe les contrées d'où il vient, le minimum à savoir, c'est-à-dire le minimum à savoir pour pratiquer sa religion correctement, est obligatoire pour tout musulman. Tout musulman doit connaître le minimum concernant sa foi, le minimum concernant les pratiques culturelles qu'il pratique tous les jours, le minimum pour que ses actes soient valides et acceptés, le minimum du halal et du haram dans les transactions et dans le travail dans lequel il travaille, le minimum des droits et des devoirs dans sa vie conjugale, concernant ses enfants, concernant ceux qu'il fréquente, concernant ses parents, concernant ses proches, concernant ses voisins. Tout ce minimum qui va lui permettre d'appliquer les ordres d'Allah et de s'éloigner de ses interdits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridillahu bihi khayra yufaqihhu fi din » Le hadith de Muawiyah, rapporté par l'imam muslim. Celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences religieuses. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes, ils n'avaient pas la connaissance des choses mondaines. Ils ne connaissaient ni l'ingénierie, ni la médecine. Peut-être qu'ils en connaissaient une partie, mais ce n'était pas l'objectif pour lequel ils ont été envoyés. Ce ne sont pas les choses mondaines. Et la science dont Allah parle, par laquelle il a élevé les gens, c'est la science religieuse, c'est-à-dire la connaissance des textes révélés et des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Ce sont eux les ulama. Et d'ailleurs, il n'y a que celui qui connaît les règles avec leurs preuves qui est considéré comme une personne de science. Mais celui qui connaît les règles sans leurs preuves, il est considéré comme un muqallid, un suiveur aveugle. Comme a dit Ibn al-Qayyim dans An-Nuniyya, et qu'il a dit qu'il y avait un ijma', une unanimité des savants sur cela, que celui qui ne connaît pas les règles avec leurs preuves du Coran et de la Sunna, il n'est pas comptabilisé parmi les gens de science. Il n'est pas comptabilisé parmi les gens de science. C'est un musulman parmi les communs des musulmans. Barakallahu fikoum. Cette science religieuse, qui est noble, et qu'on a dit que sa place, c'est le cœur, ce n'est pas juste une accumulation d'informations. Elle nécessite justement un récipient pur pour l'accueillir. Que ce cœur, il soit pur. Pur et nettoyé de deux méfaits terribles. L'impureté des shubuhat, des choses équivoques, tout ce qui est contradictoire à la religion ou des choses équivoques, et l'impureté des shahawat, l'impureté des passions. L'impureté des shubuhat et l'impureté des shahawat. Les shubuhat, les choses équivoques, elles ne se chassent qu'avec une science authentique. C'est comme cela que l'on chasse toutes les shubuhat, les choses équivoques, toutes les choses contradictoires à l'islam, toutes les mauvaises croyances, les mauvaises pensées, les mauvaises considérations, les mauvaises pratiques. Amma l'impureté des shahawat, l'impureté des passions, des désirs, ne se chasse qu'avec la force de la foi, par l'évocation d'Allah, par la lecture du Coran, par l'étude de la science, par les pratique des obligations, par les efforts dans les œuvres surérogatoires, jusqu'à ce que ce cœur soit purifié. Et un récipient pur est plus à même d'accueillir cette lumière, cette connaissance, cette révélation, qu'un récipient impur. Impur, c'est-à-dire un cœur malade. Malade de choses équivoques, de mauvaises croyances. Malade, touché par les innovations, les bid'ahs. Malade, touché par les maladies du cœur, l'orgueil. Le fait de mépriser les autres, de les rabaisser. La jalousie. La haine. Toutes ces maladies du cœur qui sont terribles. Terribles. Qui peuvent être une cause d'éloigner la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala très loin. Car les gens les plus loin d'Allah sont les gens au cœur dur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par le Bukhari, que les gens les plus détestés d'Allah sont ceux qui polémiquent dans le faux. Dans un autre hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, un peuple ne s'est pas égaré après qu'il ait été sur la guidée, sans qu'auparavant ils aient été atteints par l'art de la polémique. Sans qu'auparavant ils n'étaient atteints par l'art de la polémique. La polémique est contradictoire à l'islam. En islam, on ne polémique pas. On apprend, on pratique. Ce n'est pas avec la polémique ou le débat qu'on arrive à la vérité. C'est faux. Ça n'existe pas en islam. En islam, on arrive à la vérité en apprenant cette science des gens qui l'ont hérité, des héritiers des prophètes, et ainsi de suite. C'est un héritage. Il s'apprend. C'est ni avec le débat, ni en faisant des comparaisons ou des confrontations d'avis qu'on arrive à la vérité en islam. Ça, ce sont des pensées contradictoires à la manière d'apprendre en islam. Beaucoup de nos frères aujourd'hui s'égarent à cause de cela. Ils croient qu'en comparant tous les avis, il va arriver à la vérité. Alors, il mélange le faux et le vrai, il met au même degré, à pied d'égalité, le vrai et le faux, et il les compare. Il met à pied d'égalité la sunna et la bid'a, et il les compare. Après, il s'étonne parce qu'il s'égare. Il écoute le vrai et le faux, il écoute tout le monde, il polémique avec tout le monde, il prend de tout le monde, il discute avec tout le monde, et à la fin, il dit « mon cœur est malade ». Si tu veux que ton cœur ne soit pas malade, préserve les voies qui mènent au cœur. Les voies qui mènent au cœur sont la vue, l'ouïe, la langue, la pensée. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu dis, ce à quoi tu penses, a une influence sur ton cœur. Ne crois pas que ça n'a aucune influence sur ton cœur. Ou bien cela le bonifie, le purifie, lui augmente sa foi, ou le contraire. Voilà pourquoi l'homme fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il regarde, à ce qu'il écoute. Et Allah Ta'ala nous a mis en garde contre cela. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ne suis pas ceux dont tu n'as aucune connaissance, car certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tout ceci sera questionné. Cette science religieuse, c'est le fait de connaître ce qu'Allah a révélé à son prophète comme lumière et guidée, c'est-à-dire le Coran, la science du Coran, qui est la parole d'Allah, la science de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths authentiques, qui est une révélation comme le Coran est une révélation, mais qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou mise en pratique ou bien approuvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ensuit le consensus, l'unanimité et l'analogie juste. Mais ces deux-là, l'unanimité, s'appuie sur le Coran et la Sunna. Donc la base de toutes les sciences religieuses sont le Coran et la Sunna. Toutes les autres preuves ne découlent que du Coran et de la Sunna, ne sont pas des preuves à part entière. Les seules preuves à part entière sont le Coran et la Sunna. L'unanimité découle du Coran et de la Sunna, s'appuie sur le Coran et la Sunna. En général, il y a une unanimité, par exemple, sur un verset, sur la compréhension d'un verset, sur la mise en pratique d'un verset, par exemple, ou sur un hadith. De même, l'analogie juste, le qiyas, le sahih, se base sur des preuves du Coran et de la Sunna. Sinon, il n'aurait pas de poids. Cette science religieuse, elle demande aussi des politesses pour pouvoir en profiter. La première politesse, c'est d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas apprendre cette religion, cette science religieuse, pour des biens éphémères de ce bas monde. Les biens éphémères de ce bas monde, ils peuvent se matérialiser de plusieurs manières. Ça peut être l'argent, ça peut être la notoriété. Quelqu'un, il n'aime pas l'argent, mais il aime être connu, par exemple, la notoriété. Ça peut être le fait que quelqu'un aime toujours avoir la supériorité sur les autres. Alors, il apprend parce qu'il ne veut pas se retrouver dans une position où il n'a pas la supériorité sur les autres. Il veut toujours être au-dessus des autres. Tout ceci sont des intentions contradictoires à la sincérité. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde dans le hadith authentique. Celui qui apprend cette science par laquelle on veut l'au-delà, pour un bien éphémère de ce bas monde, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprend la science pour pouvoir polémiquer avec les savants et se vanter devant les ignorants et que les regards des gens se tournent vers lui, qu'il prépare sa place en enfer. Celui qui apprend cette science pour pouvoir polémiquer avec les savants et se vanter auprès des ignorants et tourner le regard des gens vers lui, il prépare sa place en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc l'intention est une chose très importante dans l'apprentissage de la science religieuse, que ce soit les bases ou quelqu'un à qui Allah Ta'ala a permis de pousser plus loin dans les sciences religieuses. Cette intention sincère, elle doit être accompagnée d'une volonté ferme. D'une volonté ferme. Et de viser les hauts degrés. Regardez les ambitions que les gens ont dans Dunya. Non, ne te contente pas de gagner peu d'argent, ne te contente pas d'être juste quelqu'un de moyen. Essaye d'être riche, essaye d'être... N'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est le discours malheureusement même de gens qui s'affilient à l'islam. C'est appelé à la course. Qui va avoir le plus de Dunya ? Peu importe le prix. Même à en vendre sa pudeur, sa religion ou ses principes. Peu importe. L'important, tu as beaucoup d'argent, tu fais beaucoup de voyages et tu as beaucoup de suiveurs, tu as gagné. Alors que l'islam, il n'appelle pas à ça. À avoir de l'ambition, mais dans les choses de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man ja'ala al-humuma hamman wahida ay hamma al-akhira kafahu Allah hamma ad-dunya wa al-akhira. Celui qui fait de ses soucis un seul souci, le souci de l'au-delà, Allah lui suffira pour ses soucis de ce bas monde et de l'au-delà. Le souci de l'au-delà doit être au-dessus de tous les autres soucis. Les ambitions pour les œuvres de l'au-delà doivent être beaucoup plus grandes que les ambitions matérielles. Car le matériel, premièrement, ce n'est pas une garantie de bonheur. Bien au contraire, bien souvent, il ramène beaucoup de malheur, beaucoup de fatigue, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, de disputes, de le dunya. Les gens, la plupart du temps, quand ils vont en guerre, c'est à cause du dunya. Hein, même des gens, du sang est versé, des peuples, à cause du dunya. N'est-ce pas ? Alors que ceux qui se concurrencent dans l'au-delà, Ils n'ont que des sentiments louables entre eux. Bien sûr, il veut, il espère être les premiers. Mais en même temps, il ne jalouse pas ses frères. Il n'espère pas pour ses frères qu'eux seront les derniers. Il espère aussi qu'eux aussi vont avancer. Bien que lui, il aimerait être parmi les premiers. Ceci est une bonne chose, la bonne concurrence. Ceci est la bonne concurrence dans les œuvres de l'au-delà. Il y a une différence entre vouloir atteindre des hauts degrés sans espérer le mal pour les autres. Alors que la jalousie, c'est espérer que les autres n'aient rien et nous, on est tout. Ça, c'est réprouvé en islam. C'est une maladie du cœur. Donc, ce cœur saint, ce cœur pur, il doit être accompagné d'une intention sincère, d'une volonté forte et de vouloir viser les hauts degrés dans les œuvres de l'au-delà. Aussi, parmi les politesses et les règles de bienséance à respecter en islam pour apprendre la science authentique, c'est de bien savoir chez qui on prend notre religion. Cette religion est notre capitale, l'objectif pour lequel on a été créé, comme nous l'avons rappelé en début du cours, dans le début de notre intervention. C'est la chose la plus chère que l'on possède. Il n'y a pas plus cher que la religion dans la vie d'un être humain. Ni même sa vie, ni même sa femme, ni même ses enfants, ni même quoi que ce soit parmi les choses de ce monde. C'est pour cela d'ailleurs qu'en islam, préserver la religion dans maqasid al-sharia, les objectifs, les finalités de la sharia, ça passe avant préserver la personne et préserver les biens. Car pour préserver la religion, Allah tabarak wa ta'ala a légiféré un acte où tu mets en danger ta vie, le combat dans le sentier d'Allah. Où tu dépenses ton argent. Tu perds ton argent et ta vie, pourquoi ? Pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la religion passe au-dessus de tout. Et c'est pour cela que la personne, il doit prêter attention de qui il prend sa religion. On donne toujours le même exemple, mais malheureusement c'est l'exemple qui parle aux gens. Car les gens maintenant donnent tellement d'importance à leur santé, beaucoup plus qu'à la religion, que cet exemple est parlant pour eux. Il ne viendrait à l'esprit de personne parmi nous d'aller se faire opérer par un boulanger. Un mécanicien, c'est pareil, il a des outils, le docteur aussi il a des outils, ça coupe, c'est pareil. Il va aller voir un mécanicien, il le met sur l'élévateur, il l'opère. C'est tellement ridicule qu'en parler, c'est ridicule. Tellement c'est ridicule. Ce sont des exemples ridicules. Mais subhanallah, dans la religion, non, pas de problème. On va voir des ignorants, on va voir des gens qui n'ont aucune qualification religieuse, qui n'ont jamais étudié la science religieuse de leur vie, ni auprès des savants, ni dans des universités reconnues, ni rien. Et qui parlent de religion. Ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà comment on augmente sa foi, voilà comment on fait ici en islam. Tellement la parole a été donnée à des incompétents et des ignorants que les gens, dans la masse d'informations, ils savent plus quoi écouter. Donc comme pour ton corps, quand il a besoin d'être soigné, quand tu as besoin de prêter attention à ta santé, tu cherches, tu t'informes qui est le meilleur spécialiste. Et tu ne vas pas aller te faire opérer ou prendre des médicaments de n'importe qui sans être sûr chez qui tu as été. Tu t'es informé au préalable. Alors pour la religion, ça doit être encore plus important. Car le corps, on va le délaisser. On va mourir, il va devenir poussière. Mais la religion, c'est ce qu'on va emmener avec nous pour notre vraie vie dans l'au-delà. Donc, le choix du professeur qui nous enseigne notre religion est essentiel. Une personne qui nous enseigne selon le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, loin de toute innovation, et qui nous transmet ce qu'il a pris en héritage auprès des héritiers des prophètes. Il est la suite d'une chaîne de transmission qui va jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il nous rapporte, il a une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon cheikh m'a dit qu'il lui a pris de son cheikh, qu'il lui a pris de son cheikh, qu'il lui... jusqu'à qu'il ait pris de l'imam Intel, par exemple l'imam Malik, qui a pris de Zuhri, qui a pris de Abdullah ibn Omar, qui a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Amma, celui qui vient et qui veut nous inventer une religion qui n'existe pas, alors il faut le rejeter. Aussi, parmi les points qui aident à bien profiter de la science, c'est de faire un effort sur les politesses liées à la science avant d'apprendre la science. Il a été rapporté de Abdullah ibn al-Mubarak, qui était un grand savant parmi les pieux prédécesseurs, qui disait: nous, les étudiants dans le hadith, nous avons beaucoup plus besoin de politesse que de connaissance du hadith. Il a été rapporté que les pieux prédécesseurs, ils apprenaient la politesse pendant 20 ans ou 30 ans, puis ils apprenaient la science. Une personne qui ne sait pas mettre en pratique les règles de bienséance liées aux assises de science, liées à l'apprentissage de la science, il sera privé de cette science. C'est pour cela, il est rapporté que la mère de l'imam Malik, rahimahullah, l'habillait des plus belles manières et lui mettait un beau turban pour l'envoyer prendre la science chez les savants de Médine quand il était tout jeune. Quand l'imam Malik enseignait, citait le hadith, il n'aimait pas le faire dans la rue ou en étant debout. Il considérait que c'était un manque de respect envers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mettait son plus beau vêtement, il s'asseyait sur une chaise, puis il citait le hadith pour montrer la valeur. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui prend en haute considération les rites sacrés d'Allah, les limites sacrées d'Allah, cela provient de la piété des cœurs. Et c'est ça qui manque aujourd'hui chez beaucoup de musulmans. لَا يُعَظِّمُونَ. Ils ne prennent pas en haute considération les choses liées à l'islam. Tu vas aller voir avoir beaucoup de respect pour des célébrités et ils n'ont pas de respect pour les gens de science. Il va avoir les yeux qui brillent devant une personne, mashallah, qui a réussi dans le dunya, un millionnaire. Ils vont lui courir derrière, mais donne-nous des conseils s'il te plaît. Quand est-ce que tu peux m'accorder un instant? Mais ils ne vont pas avoir cette attitude-là avec quelqu'un qui peut leur donner un conseil qui va leur sauver leur vie, leur sauver leur au-delà. Il boit les paroles de certains ignorants comme de l'eau sans réfléchir. Et quand les gens de science leur disent ceci est déconseillé, ceci est illicite, je te conseille d'agir telle manière, pour lui c'est un avis comme le mien. Il se met à la même hauteur que les gens qui ont passé leur vie dans la science. Lui, toute sa vie, il est dans la négligence ou dans l'insouciance, même si c'est un bon musulman, mais il n'a pas dépenser son temps comme la personne qui a étudié depuis des années, depuis des dizaines d'années. Il ne peut pas se comparer à lui. Mais pour lui, non. Son avis et mon avis, c'est la même chose. D'accord. Dans ce cas-là, l'avis d'un grand professeur en médecine, il tient, c'est la même chose. Vas-y, va opérer à sa place. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Moi aussi, j'ai mon avis en islam. À mon avis, tout le monde, à mon avis. Pourquoi ? Tout ceci vient d'une maladie des cœurs. Ils ne donnent pas de considération aux choses sacrées, à la science religieuse, aux gens de la religion et de science, au Coran, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux gens qui leur enseignent le Coran et la sunna. Car en réalité, quand les gens respectent les gens de science, ce n'est pas pour leur personne, ce n'est pas par admiration pour leur personne en tant que telle. Même si c'était, imaginons que même si c'était une fourmi assise à sa place, peu importe, on la respecte pour ceux qu'il nous transmet, pour ceux qu'il porte comme science, comme lumière, comme guidée. Donc c'est un respect pour le Coran et la Sunna, non pas une manière d'élever une personne pour lui. D'ailleurs, la personne qui s'égare, subhanallah, il est rabaissé, même si auparavant il faisait partie des gens de science. Il y avait des gens qui étaient forts dans la science, qui se sont égarés totalement du chemin de la science et de la piété. Allah les a rabaissés, subhanahu wa ta'ala. Car ceux qui les élevaient étaient la science religieuse. Quand ils s'en sont éloignés dans la pratique ou par une innovation ou autre, Allah les a rabaissés. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit: quand j'étais avec l'imam Malik, je faisais très attention à la manière de tourner mes pages pour ne pas faire trop de bruit. J'avais de la pudeur devant lui. Il a étudié avec l'imam Malik 20 ans. 20 ans. Étudier, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a des gens qui disent: ça fait 10 ans que j'étudie avec tel cheikh. Il va un dars par semaine, deux dars par semaine. C'est pas ça étudier. Eux, ils étaient tous les jours. Presque tous les jours. Des heures et des heures. Ils se faisaient éduquer par les gens de science. Assieds-toi comme ça. Porte ton livre comme ça. Approche-toi. Mets ta main devant ta bouche. Tu bailles. Comme il éduque un enfant. Ne lis pas trop fort. Baisse la voix. Voilà. C'était ça. En vérité, aujourd'hui, par exemple, les gens, ils vont vers des coachs. Avant, les coachs, c'était des savants. Il n'y avait pas de coach. C'était des imams. Un imam, il te conseillait dans ta vie. Il te conseillait dans la manière de te comporter avec ton épouse, dans ta vie. Il te conseillait comment réussir tes projets de la manière qui plaît à Allah. Donc, c'est un éducateur. En vérité, les imams, les savants étaient des éducateurs. Ils n'avaient pas juste un rôle comme ça d'enseignement. Aussi, ils éduquaient les gens. Ils les conseillaient, ils les orientaient, ils leur interdisaient, ils les blâmaient. Comme un père pouvait faire avec ses enfants. Lui, il le fait avec ses fidèles. C'est ça le rôle d'un enseignant, d'un imam, d'un cheikh, d'une personne de science. S'il ne peut pas blâmer, il ne peut pas conseiller, il ne peut pas interdire, il ne peut pas... Il sert à quoi ? Il ne peut pas remplir son rôle pleinement. Alors les gens se tournent vers des ignorants. Venez, je vais vous enseigner comment réussir votre vie. Je vais vous enseigner comment ceci, comment cela. Alors que c'est des gens, eux-mêmes, ils sont ignorants. Comment ils peuvent diriger les gens? Comment un aveugle peut te diriger sur la route? Il faut savoir qu'auparavant, même les grandes personnalités et les dirigeants respectaient la science et les savants. Il est rapporté que un calife est entré dans l'assise de l'imam Malik, ils lui ont mis une chaise dans l'assise, une chaire. Et ils lui ont mis une chaire. Et l'imam Malik l'a regardé et lui a dit: assieds-toi par terre. Celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Assieds-toi par terre. Ici, tu es dans une assise de science, tu t'assois par terre. Il n'y a pas de chaire ici. Il n'y a pas une place supérieure. Il n'y a que celui qui est assis ici qui se met en hauteur pour pouvoir parler à tout le monde. Et le calife s'est assis par terre. C'était comme ça que les gens apprenaient la science, et c'est comme ça qu'Allah les a élevés. Il y a beaucoup de politesse, il y a des livres entiers écrits sur ce sujet. C'est un sujet qui est en vérité très intéressant. Il y a des ouvrages de certains savants de l'islam spécifiques sur les politesses de l'apprentissage de la science, la politesse avec son cheikh, la politesse avec ses camarades, la politesse avec son livre, la politesse dans ses habillements, la politesse dans l'assise, chaque détail, tout ceci expliqué. Mais ce serait trop long à expliquer, ici ce n'est qu'une introduction, et l'objectif est de motiver l'assise à donner une importance à la science religieuse et à lui donner son droit. Et c'est comme ça qu'ils vont en profiter le plus. Une fois que nous avons fait cette introduction, nous allons parler maintenant du livre que nous allons étudier ensemble, qui est un livre dans la jurisprudence, Manhaj al-Salikin, qui pourrait être traduit en français par La voie des itinérants et l'éclaircissement de la jurisprudence dans la religion. Donc c'est un livre de fiqh, de jurisprudence. On va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire le fiqh. Cet ouvrage est écrit par un éminent savant qui s'appelle le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Abdurrahman Abu Abdillah, Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdillah ibn Nasir ibn Hamad al-Sa'di al-Tamimi al-Najdi. Sa famille al-Sa'di reviennent aux Bani Amr, qui font partie de la grande tribu arabe des Tamils, qui est très connue. C'est un savant qui est né, rahimahullah, dans la ville de Unayza, dans la région de Al-Qasim, en Arabie. Il est né le 12 Muharram de l'année 1307 de l'Égypte. On est en 1444, ça fait combien de temps? 137 ans. Beaucoup de savants ont écrit sur la biographie de Cheikh Al-Sa'di, rahimahullah. Il y a des livres spécifiquement qui parlent des ulama du Najd. Le Najd, c'est une région en Arabie. Et il y a le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, qui avait fait un magistère où il parle des efforts de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di pour éclaircir la croyance islamique. Ça, c'est le sujet de son magistère. Et de la page 13 à la page 61 du magistère, il fait une biographie du Cheikh, rahimahullah. Le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, était orphelin. Sa mère est morte alors qu'il avait 4 ans. Son père est mort alors qu'il avait 7 ans. C'est la femme de son père qui s'est occupée de lui. Et elle l'a beaucoup aimé. Elle s'est bien occupée de lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Puis, il est parti dans la maison de son plus grand frère, Hamad, qui s'est occupé de son éducation. C'était un jeune homme très intelligent. Et les gens de science et les gens du village ont commencé à repérer son intelligence. Il était très motivé pour l'apprentissage de la religion dès son jeune âge. Il a commencé par apprendre le Coran par cœur. Il l'a fini à l'âge de 11 ans ou à l'âge de 12 ans. Puis il s'est dirigé vers les savants de sa région pour apprendre la science. Il a appris toutes les sciences nécessaires dans le Coran, dans la science du hadith, dans le tafsir, dans le mustalah, dans les fondements de la jurisprudence, dans les sciences de la langue arabe. Et il était connu pour passer tout son temps dans l'apprentissage de la science. Il ne perdait pas de temps. Il était aussi connu pour être d'une grande générosité et d'un très haut caractère, d'une piété et d'un ascétisme. Il aimait beaucoup le bien, il aimait être bon envers les pauvres et les faibles. Il aimait aussi les discussions avec les savants et les gens de science pour apprendre d'eux. Il était très modeste. Il avait très bon comportement, que ce soit avec les plus petits ou avec les plus grands. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne fais pas partie des nôtres celui qui ne connaît pas la valeur de nos grands et celui qui n'est pas miséricordieux avec nos petits. Il était quelqu'un de très simple, qui donnait du temps à chaque personne qui venait vers lui, s'il en avait la capacité bien sûr, s'il ne lui faisait pas perdre du temps sur son apprentissage ou sa religion. Dès qu'il a atteint la vingtaine, il a commencé à enseigner dans sa ville. Puis, il est devenu le responsable de l'enseignement dans toute la ville. C'est-à-dire tout ce qui était lié à l'enseignement religieux, il en était le responsable, déjà très jeune. Il a étudié avec beaucoup de grands savants de son époque et il a pu aussi rencontrer le grand savant mauritanien Cheikh Mohamed Amin al-Shankiti et il a appris aussi avec lui les sciences du tafsir et de la langue arabe. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il fait partie des shuyukh, des professeurs de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, qui est plus connu que lui, alors que les savants disent, comme Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah, dit, parmi tous les savants du Najd, c'est-à-dire de la, on va dire de cette région d'Arabie où il y a eu beaucoup de savants, il dit, pour moi, les plus savants, ils sont différenciés sur les autres, c'est Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti d'Arabie, le Cheikh de Cheikh ibn Baz, et Cheikh Abdurrahman al-Siyadi, rahimahumallah. Donc, ils avaient une grande place dans la science et auprès des savants. Et d'ailleurs, ceux qui étudient les livres, les ouvrages de Cheikh Abdurrahman al-Siyadi, il pourra comprendre la grande place qu'il a dans la science. Celui qui lit son tafsir, il a un livre dans le tafsir, qui est très résumé, mais subhanallah, en une phrase, quand on repart, on lit dans les grands tafsirs détaillés, il a résumé en une phrase ce que l'on trouve dans des paragraphes et paragraphes dans plusieurs tafsirs. Et il s'est concentré dans son tafsir à la défense de la bonne croyance. Rahimahullah. Son tafsir est un incontournable. Rahimahullah. Il est mort en l'an 1376 de l'Égypte. Il avait de l'attention et il est mort, rahimahullah. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et parmi les ouvrages qu'il a écrit, il y a ce livre, Manhaj al-Salikin, qui est un livre dans le fiqh et que tous les savants recommandent pour tous les débutants.